Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get là.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et ce soir, on parle de deux films. À ma droite, pour ce numéro 66, un nom fameux de la cinéphilie française, Olivier Assayas, avec un film intense et complexe, thriller sur l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine, et à ma gauche, un jeune réalisateur et son deuxième long métrage attachant et coloré, comédie 100% sénémarnaise. Avec nous pour en parler, Justine, à qui l'on souhaite la bienvenue, puisque c'est sa première participation à l'émission, Corentin, Aubry et Clarisse. Et on commence donc par le nouveau film d'Olivier Assayas, après Irma Vep, après Personal Shopper par exemple. Et ce nouveau film, c'est Le Mage du Kremlin, film de près de 2h30, hein, il me semble, qui adapte le best-seller éponyme de Giuliano d'Arempoli, qui avait été publié chez Gallimard il y a 3 ans et qui avait reçu le Grand Prix de l'Académie française et qui avait vraiment été un énorme succès de librairie. Donc bref, dans ce film que j'avouerais n'avoir pas eu le temps de voir, c'est que la deuxième fois en 66 épisodes, l'autre fois c'était pour La Vénus d'Argent. Donc bon, bref. Donc dans ce film que j'avouerais n'avoir pas eu le temps de voir, Paul Dano incarne Vadim Baranov, conseiller mystérieux et inventé de Vladimir Poutine, artisan de son accession à la tête de l'État russe après la décomposition de l'Union soviétique. Vladimir Poutine qui est pour sa part interprété par Jude Law, ce dont il peut se féliciter en réalité à mon avis. Que faut-il en penser? Qu'en avez-vous pensé? Faut-il prendre 100 billets? Dites-moi, Corentin, je te donne la parole pour lancer ce débat.
Oui, eh ben, je commencerai par une petite boutade. Je dirais que Olivier Assayas, Olivier essaya, mais Olivier se prit les pieds dans le plat de Borch. Voilà. Vous m'excuserez cette petite boutade, parce que moi, le film, bah, je le dis tout de suite, j'ai pas vraiment aimé. On est déjà entre... On sait pas trop comment le prendre, et en fait, j'ai lu le billet d'une chercheuse qui s'appelle Anna Colin-Lebedev, qui est une chercheuse travaillant sur les sociétés post-soviétiques et sur la guerre contre l'Ukraine, et donc un billet sur Mediapart qui s'intitule « Hommage du Kremlin, un film au service du narratif russe ». Donc, commençant par ces mots, je cite « Le Mage du Kremlin, le film, est à peu près le meilleur cadeau que nous puissions faire au Kremlin, le vrai. En affichant une intention de dénoncer l'exercice du pouvoir autoritaire, il contribue à l'inverse à renforcer le récit russe et aide le Kremlin à propager son narratif. »
Et à le faire jouer par Jude Law, en plus. Enfin, je veux dire, pardon.
En le faisant jouer par des acteurs de carrure, on va dire, bah, hollywoodienne, quoi. Parce que oui, en fait, le problème, et en fait, je vais vraiment m'aider de pas mal de son texte, en fait, qui est moins une critique cinématographique que, en fait, véritablement un problème politique pour elle. Le problème pour elle, c'est d'abord que le film se situe entre deux eaux. D'une part, le carton introductif prévient que le spectateur, qu'il s'agit d'une fiction, il y a des personnages de fiction. Tu le disais tout à l'heure, Vadim Baranov, qui interprète Dano, il n'a rien à voir avec l'universitaire russe décédé en 2014 du même nom. Mais en fait, il ferait référence plutôt à l'éminence grise du Kremlin, Vladislav Surkov. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de noms qui sont cités en tant que tels. Il y a Poutine, il y a Eltsine, Berezovsky, Prigogine même. On a l'impression d'avoir une sorte de Kremlin Cinematic Universe, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, le problème, c'est que ça se situe entre deux eaux. Le carton introductif prévient le spectateur, mais pour la chercheuse, la narration, elle démontre totalement le contraire. C'est-à-dire que le film fait référence à l'existant, comme je l'ai dit, et constitue aussi une chronologie très précise des années 90 à 2019. Et Olivier Assayas affirme lui-même que, eh bien, je cite, « l'exigence sur la véracité historique est cruciale ». Et donc, par là, on ne sait plus très bien où situer le film, et on finit par le prendre comme une, voilà, une analyse de la Russie contemporaine de Poutine. Et donc, le film, bah, il est ambigu sur ce point. Il nous présente, en fait, il nous découpe différentes parties qui cristallisent, qui semblent cristalliser, en fait, des moments ou des concepts fondateurs de la Russie de Poutine. Bah, je pense notamment à un truc qui m'a fait beaucoup rire, mais au segment sur la verticalité du pouvoir. Voilà, on conceptualise, on nous parle de la verticalité du pouvoir. Donc voilà, je trouve, et je reviendrai après parce que je ne vais pas parler pendant 800 minutes, mais je trouve qu'en effet, il y a une problématique politique dans la représentation de Poutine en homme fort, en homme seul, et aussi dans l'invisibilisation totale du peuple, parce qu'on pourrait dire finalement le peuple il est totalement soumis, mais c'est quand même un narratif. Hein. Disons que le Kremlin aujourd'hui, enfin Moscou, ils s'en foutent en fait de l'image qu'ils ont, en fait l'image que leur véhicule Assayas, j'imagine qu'elle leur va très bien de cette Russie autoritaire. C'est une image quand même. Enfin, ils veulent pas, ils veulent plus non plus avoir l'image de respectabilité pour au niveau de l'Occident. Non, c'est la confrontation quoi, on va dire. Donc, je trouve que je suis assez d'accord sur que ce film pose problème, on va dire, dans son narratif.
Merci Corentin. Justine, pour toi, quel est ton avis global sur ce film ?
Bah moi, c'est mon esprit de contradiction, mais je vais me faire la défenseuse du film. Mais avant tout, je précise que moi aussi, j'ai été perplexe sur la teneur politique, d'abord du roman et puis du film, donc, avec en effet une tonalité pro-russe que j'aurais pas imaginé et qui semble, enfin peut-être un impensé, en tout cas pas forcément une volonté délibérée de l'auteur, mais j'ai aimé le dispositif très simple d'adaptation cinématographique avec la volonté de laisser transparaître le roman le plus possible, une adaptation qui n'est pas audacieuse mais qui fait l'affaire très bien et que j'ai trouvé appréciable avec ce parti pris, et je trouve que ça respecte bien la ligne de crête où se situe le livre entre roman et essai, avec ce côté théorie politique très didactique qu'on retrouve dans le film. Et dans la salle notamment, il y avait beaucoup de lycéens quand j'y suis allée, et c'était un dimanche soir, donc on peut pas mettre ça sur le compte d'un impératif scolaire, mais je trouve que c'est important d'avoir aussi ce genre de récits cinématographiques qui sont une mise en image finalement de ces ouvrages qui les rendent plus grand public. Et je trouve que ça fonctionne très bien sur le côté fresque de l'histoire russe, avec donc ce retour sur les arcanes du régime, l'articulation de l'effondrement de l'Union soviétique, de cet entracte féodal avec la montée en puissance des oligarques et la constitution de leurs empires financiers, et puis l'ascension de Poutine, sous-estimé comme étant un président fantoche au départ par les oligarques, et qui échappe ensuite à leur contrôle. Voilà.
Merci beaucoup Justine. Et pour toi Aubry, défenseur du film ou plutôt avec Corentin ?
Je vais être un peu entre Justine et Corentin, même si
Macron.
Plutôt du côté que de Corentin. En fait, moi je suis assez déçu par le film d'Assayas, parce que si je lui trouve pas mal de points intéressants du fait de son dispositif, de son déploiement et de ce qu'il peut raconter, mais j'y reviendrai. J'ai aussi et surtout trouvé ça franchement long, assez grossier, pas si intéressant que ça. Enfin, dans la forme, on va dire. Je crois comprendre Assayas avec ses récits enchâssés, le fait que tout ce qu'on voit à l'écran n'est jamais autre chose qu'un récit. On a le récit de Jeffrey Wright, celui de Paul Dano, ceux d'Alicia Vikander et Jude Law, d'autres personnages. L'impression qu'en fait, à chaque scène, à chaque fois, chaque personnage raconte une histoire et que tout ça s'imbrique, s'ajoute, se superpose. On peut y ajouter le chapitrage lourdingue et assez ridicule du film qui va dans ce sens, c'est-à-dire un enchaînement d'épisodes dont le découpage et l'orientation sont toujours soumis au point de vue d'un narrateur. Au fond, une espèce de constat qu'il est impossible de raconter objectivement la Russie de ces 30 dernières années, et ce d'autant plus d'un point de vue extérieur. En quelque sorte, enfin, avec ce que je viens de dire sur ce dispositif, le personnage de Jeffrey Wright, qui est donc un Américain russophile qui écrit sur je sais plus quel auteur soviétique, et qui donc s'intéresse à ce fameux mage du Kremlin, Et qui du coup rencontre Paul Dano pour qu'il lui raconte son histoire et tout, ben, en fait c'est un peu quelque part un double d'Assayas qui de façon très extérieure va adapter le roman de Giovanni d'Empoli, qui va se saisir de cette histoire là qui est fait en fait de récits au pluriel racontés par des gens et pas vraiment forcément en tout cas d'une histoire scientifique. Non pas que le film du coup soit faux, enfin complètement faux ou quoi, simplement ça du coup s'adresse à un constat intéressant, puisqu'en fait en même temps qu'il prétend dévoiler les dessous de la Russie de Poutine et que comme tu dis Corentin, il met un point d'honneur à essayer de respecter cette espèce de vérité factuelle, le film, en fait, il lui substitue un autre ensemble d'histoires assemblées et fabriquées. Il n'y a qu'à voir tout le travail autour des fausses images d'archives qui sont reconstituées pour appuyer ce constat. Le match du Kremlin, il présente un récit ou une somme de récits qui se veut en rien objectif, mais simplement en décalage, en alternative au récit officiel poutinien. Et de fait, le film est une grande architecture en coquille vide, ce qui est à la fois assez passionnant dans ce que ça peut raconter de la Russie contemporaine, des images qu'elle diffuse et de tous les jeux de dupes, en fait, dont consistent ces stratégies médiatiques. Enfin, lesquels consistent ces stratégies médiatiques. Et en même temps, ça se retourne contre le film, parce que du coup, ça fait que le film, je trouve, devient vite chiant, parce qu'il se borne à ce constat. J'ai l'impression qu'en fait, Assayas, il me décrit une situation sans jamais forcément prendre position, en restant très à distance des événements et des personnages qu'il représente, une distance temporelle par tous ces récits enchâssés et surtout en flashback, mais aussi et surtout une distance aux événements, avec l'impression de les survoler sans s'y attarder et surtout de les voir s'enchaîner à travers le prisme d'individualité. Tu le disais Corentin, on voit pas forcément le peuple, et là encore c'est un parti pris du film de se concentrer autour de ses subjectivités, de montrer que en fait cette Russie-là et ces images-là, ces récits-là se construisent autour de subjectivité, mais du coup j'ai l'impression qu'en fait il perd l'espèce de contrepoint à ce qu'il filme, il perd le poids des événements et le poids du réel, et du coup il se borne à cette espèce de suite d'épisodes, de suite de récits en fait, sans pour autant leur permettre, permettre un contrepoint critique. Si certains s'en souviennent, c'est un peu le même reproche que j'avais pu faire à The Apprentice l'année dernière, dans le sens où, un peu comme ce que tu mettais en avant encore une fois Corentin, et puis même Justine sur l'ambiguïté politique du film, je trouve qu'en fait, effectivement, là, il montre la Russie comme une espèce de système autoritaire, finalement assez violent, etc. Le problème, et c'est en ça que ça ne dérangerait pas forcément la Russie, c'est que comme un peu The Apprentice, il montre ça comme quelque chose qui marche. Parce qu'en gros, on a Poutine qui réussit malgré tout, le personnage de Paul Dano qui en gros prend sa retraite, mais la Russie continue sans lui et tout. Et à la fois, on pourrait se dire qu'on ne peut pas reprocher ça au film parce que c'est factuel, entre guillemets, enfin, c'est ce qui se passe dans la Russie et tout, de la même manière que Trump, il a continué son ascension, qu'il a fini président deux fois, etc. Mais dans la représentation qu'on en donne, quand on se borne à cette espèce de constat-là, forcément, ça implique une espèce d'ambiguïté un peu douteuse, enfin, critiquable dans certaines mesures. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est un peu long, mais je dirais que le film, donne des discussions très intéressantes, mais pour le coup, je trouve que bon, esthétiquement, cinématographiquement, entre guillemets, c'est vraiment oubliable. Voilà.
Mais je trouvais que le film avait un intérêt aussi si on le détachait du contexte, ce qui est un peu problématique, mais au sens où je l'ai aussi vu comme un récit d'apprentissage et vraiment l'apprentissage du cynisme. Et j'ai bien aimé ce fil narratif-là, avec en plus l'acteur qui va très bien dans ce rôle, Paul Dano, avec son air candide, juvénile, et qui cerne tous les rouages du pouvoir, qui au début est fier de sa place en marge de la société moscovite, avec cette autarcie dans laquelle il s'enferme avec Xenia, sa compagne, et qui va prendre sa revanche après avoir l'impression d'avoir loupé le coche, d'être méprisé par les nouveaux puissants du pays, et qui va se livrer à des reniements, des compromissions, et devenir l'éminence grise de Poutine.
Ouais, pour rebondir, j'ai l'impression que j'ai on ne va pas parler de message, parce que je sais qu'on n'aime pas dire les films délivrent un message, parce que voilà. Mmh. Voilà. Mais bon, je retiens un peu ce que je vois, enfin ce que je retiens quand je regarde, je ne sais pas, LCI, c'est-à-dire la Russie de Poutine, Russie verticale, enfin... Il y a ce mot qui est cité quand même, c'est le mot tsar, c'est-à-dire c'est un mot qui impose de lui-même dans nos représentations l'image d'une verticalité entre un monarque et des sujets. Donc en fait, tout part d'en haut et rien n'arrête ce qui part en bas, enfin ce qui part vers le bas, c'est-à-dire ce que tu disais, Aubry, c'est-à-dire que en fait, rien, même si ce pouvoir il est mauvais, rien n'arrête ce pouvoir et donc il réussit. Et en fait, s'il réussit, c'est très bien. Voilà. Donc ça, c'est assez dommage. Je trouve, et aussi un point que relevait l'universitaire, c'était à propos de ce que dit à un moment Poutine, c'est-à-dire que Poutine pense avoir tout compris de la société russe, et le film nous montre qu'en fait, oui, il a tout compris de la société russe en disant « les Russes admirent Staline parce qu'il leur a donné du sang ». Donc, grâce aux répressions. Et moi, je vous cache pas que ça c'est assez gênant, en fait, je trouve, comme discours, parce que j'ai l'impression qu'il est assez à la fois essentialisant, orientalisant au niveau du peuple russe, c'est-à-dire que en fait c'est voilà, c'est l'idée d'un esprit russe unifié qui en fait on a l'image en fait de ces Russes assez vivant dans le froid, dans la neige, avec ses babouchkas et avec ces Russes très violents à la vodka. Enfin voilà, c'est vraiment l'image d'Épinal, et donc comme quoi en fait ces Russes ils voudraient du sang, quoi, et que bah pendant la période de aussi une période aussi violente que ça peut paraître, eh bien ils aient en fait voulu, on va dire, ces répressions et leurs propres répressions. Après, on pourrait dire que dans ce cas-là, on pourrait embrayer en disant que en fait, le fascisme veut donner aux gens le désir de se faire réprimer. Bisous, Clément Schneider. Et donc, ça me semble en ça aussi, et je finirai là-dessus, un film assez intéressant à confronter à un film que je n'ai pas encore vu et que personne de vous n'a vu et que personne ne verra avant un certain temps, qui sera le film d'Albert Serra, Out of This World, qui fera sûrement sa première à Cannes, je l'espère en tout cas. S'il te plaît, Thierry Frémaux, écoute-moi. Et donc qui prend aussi son contexte dans la guerre en Ukraine, alors qu'une délégation américaine se rend en Russie afin de trouver une solution aux différends économiques liés aux sanctions. Et donc dans ce cas-là... je sais que Albert Serra peut faire son petit malin, mais je lui fais confiance et je trouve que ce sera très intéressant d'aller voir ça. Et voilà, et n'allez pas voir Serebrennikov, Limonov, pour refaire une petite référence vis-à-vis de la Russie, parce que en fait, si le film d'Assayas est pas très bon, Limonov, c'est une purge, c'est encore pire. Voilà.
Moi je rebondirais quand même. Enfin, je trouve que c'est quand même. Enfin, on peut nuancer un tout petit peu ce que tu disais, Corentin, dans le sens où, entre guillemets, bon, Assayas joue un jeu un peu douteux dans sa représentation. En même temps, bon, il dit pas non plus, tu vois, que. Il tient pas le discours poutinien qui pourrait
Ça en fait le truc, c'est qu'il tient. En fait, disons que ce sont les mêmes narratifs, mais lui, sous couvert de le dénoncer, et en fait oui. Je doute pas de sa sincérité de le dénoncer, mais ça fait plaisir, je pense, au Kremlin, enfin ça doit faire plaisir, ce narratif. Bah,
disons qu'en fait j'ai l'impression qu'en restant autant en retrait dans la manière dont il fait son film, en tout cas il laisse les prises pour une espèce de récupération comme ça, qui serait de dire oui, bah, en gros c'est violent, on n'est pas des bisounours et tout, mais regardez, on tient le pays avec des rênes de fer et ça marche. Effectivement, là je serais plutôt d'accord. Et je trouve qu'en fait, le gros problème que j'ai avec le film, c'est que, ok, c'est intéressant tout ce système de récits enchâssés, cette espèce de recours à la fiction pour montrer tout le vide en fait qu'on retrouve dans l'imagerie de la Russie aujourd'hui, quelque chose de très incertain qui est le jeu en fait du pouvoir russe, hein. Il y a une séquence dans le film qui tourne autour des réseaux sociaux où en gros Paul Dano explique à Prigogine que ça sert à rien de donner une bonne image de la Russie à l'international, que ce qu'il faut faire c'est juste d'inonder l'espace numérique, enfin internet, les réseaux sociaux, etc., d'images clichés, etc., de la Russie, pour, justement pour, en gros, faire sentir une présence incertaine, au contour incertain, et en fait fantasmer. Donc tout ça, ça se rejoint. Je trouve ça intéressant. Le problème, c'est effectivement que à la toute fin du film, quand, en gros, Paul Dano, il termine son récit, on a un peu envie de dire « so what ?» Parce que, il y a littéralement le personnage de Jeffrey Wright qui s'en va, qui se retourne vers Paul Dano avec un air un petit peu inquiet. On se dit, oh mon Dieu, il se prépare de très grandes choses. Et en fait, non, on a juste l'impression qu'il en a un peu rien à secouer. Et de fait, nous non plus, enfin en tout cas moi non plus, dans le sens où on nous a fait un récit, on nous a dressé un constat, regardez, en gros la Russie s'est construite comme ça, et encore que c'est une suite de récits biaisés, et c'est tout. Et moi c'est là que pour le coup je reprocherais à CS de peut-être pas plus prendre parti, non pas afin de tenir des grands discours un peu lourds ou quoi, mais juste dans sa mise en scène, dans la manière qu'il a d'adapter d'Empoli, de construire son récit, etc., bah de marquer un peu plus le coup. C'est-à-dire que le film, en fait, je trouve très très plat, même dans sa mise en scène. Je trouve que en voulant à tout prix coller à cette espèce d'esthétique de surcouche de récit, et qui en fait, de coquille vide, bah, en fait, le film il devient quelque chose de très plat, comme ce qu'il met en scène, là où justement il devrait laisser la place à des contrepoints, ou en tout cas permettre ce genre de contrepoints d'exister.
Moi je dirais juste que j'ai l'impression qu'à l'inverse, ce qui pose problème, c'est précisément le souffle épique du film et la mythification qu'il opère sur le pouvoir russe, et que précisément, et aussi tous les poncifs dans lesquels il tombe, qui correspondent aux poncifs de récits russes, même le personnage de Xenia, que j'ai beaucoup aimé, mais qui en même temps correspond vraiment à l'archétype de la femme fatale, plus dans le film, parce que il y a moins de place pour son développement. Et donc, moi, je ne verrais pas de la platitude, mais au contraire, ces aspects problématiques qu'on a soulignés, qui viennent de ce fantasme pour le pouvoir qui se donne libre cours.
Ouais, mais tu vois, enfin typiquement, enfin tu faisais référence au truc de la femme fatale. Enfin, il y a un truc qu'on remarque, je pense, devant le match du Kremlin, c'est que, en gros, enfin je veux dire, c'est factuel. Enfin, je veux dire, Assayas, c'était le rédac-chef des Cahiers dans les années 80. C'est une figure importante de la critique française. Et c'est quelqu'un qui connaît entre guillemets son cinéma de genre, qui connaît les codes du cinéma de genre. Et on voit bien que là, le côté thriller, tu l'as dit, même le récit initiatique, la convocation de motifs, quasiment du film de gangster, du film d'espionnage, le motif de la femme fatale. En gros, il convoque tous ces trucs fictionnels pour raconter la Russie de Poutine, ce qui en soi fait sens, comme je l'ai dit, pour raconter au fond la fiction poutinienne qui est mise en place par le pouvoir russe. Mais enfin, je sais pas, ouais, je trouve que ça tient pas trop. Je trouve qu'en fait, le film, en plus de ce que j'ai déjà évoqué, je trouve que même pratiquement il y a pas mal de trucs qui se tiennent pas vraiment. Enfin, par exemple, autant tu vois, je trouve que l'idée de faire un film entièrement en anglais alors que ça se passe en Russie avec des acteurs hollywoodiens, genre, enfin je veux dire, c'est même pas des acteurs vaguement russophones,
mais
ou d'origine russe ou quoi.
Mais ça, il n'avait pas tellement le choix.
Bien sûr, mais du coup, je me dis, assumer ce choix-là jusqu'au bout, en se disant même, tu vois, par exemple, enfin je veux dire, Paul Dano et Jude Law, ils parlent quasiment avec un accent british, quoi. Ça fait bizarre de voir Poutine parler avec un accent british. Le problème, c'est qu'en fait, t'as toute une ribambelle de personnages secondaires dont tu ne sais pas pourquoi ils parlent ils parlent anglais avec un accent russe. Et alors, ça peut paraître un détail comme ça, mais du coup, je comprends pas où il veut en venir. J'ai l'impression juste que c'est pas très bien ficelé, qu'il a un peu le cul entre deux chaises, qu'il sait pas trop, en gros, ce qu'il veut faire entre assumer cette espèce de vraie fiction et en fait tenir cette vérité à côté. J'ai l'impression que le film est assez maladroit sur pas mal de points, en particulier ceux-là. Donc, ouais.
Mais à la limite, ça détache un peu du côté roman à clé, puis film à clé, qui a posé problème avec ce mélange de fiction et de véracité historique. Moi, ça m'a pas choqué.
Moi, je suis choqué.
Superbe conclusion. Merci pour vos échanges. En tout cas, chers auditeurs, chères auditrices, je vous invite, comme moi, à aller vous faire votre propre avis en allant voir le film en plus, et éventuellement à nous écrire, comme d'habitude, si vous en avez l'habitude. D'ailleurs, oui, ce qui me fait penser que sur Spotify, notamment, je ne sais pas ce qu'il y en a sur Deezer, mais récemment, tous les podcasts ont la fonction commentaire désormais, donc vous pouvez nous écrire encore plus facilement qu'avant dans les commentaires de l'émission sur Spotify. Et une fois n'est pas coutume, Les conseils arriveront en milieu d'émission entre les deux films pour des raisons de facilité de montage. Donc c'est le moment des conseils et je vais vous demander les vôtres. On commence à nouveau par toi, Corentin. Qu'est-ce que tu nous recommandes pour la semaine ?
Mais je te recommande à toi personnellement et à tous ceux qui te suivent. J'ai recommandé les Vampires de Louis Feuillade, donc datant de 1905, qui sont actuellement du coup tous les épisodes dispo sur la Cinéthèque. Donc c'est un sérial noir de 10 épisodes produit par Gaumont, d'ancêtre de la série. Si je donne un petit pitch, ce serait que alors qu'une bande criminelle celle des vampires sévit dans le Paris de la Belle Époque, le journaliste Philippe Guérand mène l'enquête. Et alors pourquoi j'ai choisi bien les vampires ? Eh bien, c'est aussi parce qu'on est sur une émission d'Assayas, enfin une émission en lien avec Assayas, puisqu'il a réalisé en 1996 le film, comme tu le disais, Irma Vep, du nom de l'antagoniste de la bande des vampires, dont le nom est l'anagramme évident de vampire, voilà. Et donc qui est un film mis en abîme sur un réalisateur qui entend tourner un remake des vampires de Feuillade, avec Maggie Cheung, voilà. C'est un argument, puisqu'il y a Maggie Cheung. Et deuxième argument, il y a Jean-Pierre Léo, voilà. Donc, dans le rôle du réalisateur, c'est très bien. Et en plus, encore une autre mise en abîme, poussée plus loin, parce qu'en 2022, Assayas réalise un remake d'Irma Vep, donc de son propre film, mais au format sériel cette fois, et donc s'adaptant au format premier du feuilleton. Cette fois avec Vincent Macaigne et Alyssa Vikander qu'on retrouve dans le match du Kremlin. Donc j'ai pas vu la série Irma Vep, j'ai commencé à voir le film mais j'ai arrêté, juste parce que j'étais fatigué mais pas parce que j'ai pas aimé, mais je pense que sinon j'avais bien aimé. Mais voilà, Les Vampires c'est très bien, allez voir, et c'est disponible sur la Cinéthèque d'ailleurs comme Irma Vep le film.
Merci beaucoup Justine, ta recommandation pour la semaine.
Alors moi tout simplement dans la lignée de cette émission, je recommanderais Le Match du Kremlin de Giulio d'Ampoli, le roman. Je trouve que c'est un premier roman assez bluffant et oui, voilà, c'est tout.
Merci.
Je pourrais couper.
Et Aubry, toi, ton conseil pour la semaine ?
Moi, je vais dévier un petit peu parce que j'ai pas trop de recommandations directement en lien avec le sujet du jour. Je vais partir d'un autre constat très simple qui est que ça fait un peu plus d'un an que David Lynch nous a quittés. Et quoi de mieux pour retrouver un peu de David Lynch que de se lancer dans Twin Peaks ? Twin Peaks, dont les trois saisons sont disponibles sur Arte, donc gratuitement. Donc j'ai envie de dire, qu'attendez-vous pour découvrir ou revoir peut-être la meilleure des séries, la meilleure dans mon cœur en tout cas. Petite précision, juste parce qu'effectivement j'ai dit que les trois saisons étaient disponibles sur Arte. En revanche, il n'y a pas le film Twin Peaks Firewalk With Me, qu'il faut voir quand même entre la deuxième et la troisième saison.
Il est sur Mubi en ce moment, donc si vous avez envie de cumuler les offres d'abonnement, et si vous êtes étudiant ou étudiante, Mubi ça ne coûte que 7 euros.
Il y a même une offre, les 3 mois à 1 euro là en ce moment.
Ah, elle est de retour, bah super. Voilà, donc vous pouvez même souscrire 3 mois à 1 euro, vous avez tout le catalogue Mubi, vous voyez.
Tant qu'à leur en faire de la... Enfin, non, on va pas faire de la pub, mais bref. Mais en plus de ça, si vous faites ça, bientôt, je sais plus, c'est fin février ou courant mars, je sais plus, il y aura la série de Wong Kar-wai, Blossom Shanghai, donc le retour de Wong Kar-wai, en fait, justement sur Mubi, je crois.
Oui,
donc,
tout à fait.
Ça peut être intéressant de combiner les deux.
Tout à fait. Et enfin, précisément, c'est une série aussi que je vous recommande, décidément c'est pas passé le mot. C'est une série que j'ai regardée récemment. Alors annonce tout de suite, il faut un VPN pour la voir si vous aimez la légalité. C'est la série The Death of Bunny Munro, qui est produite par Sky TV au Royaume-Uni, une adaptation du roman de Nick Cave qui s'appelle The Death of Bunny Munro aussi, et qui suit donc un vendeur porte-à-porte dans les années 2000, au tout début des années 2000, en 2003, dans le Sussex, donc autour de Brighton, etc. Donc on voit énormément la mer, il fait très beau. Qui donc suit ce père de famille, tout récemment veuf, on va dire, avec le petit garçon qui reste après la mort de sa femme. Et donc ce Bunny Munro est un des pires personnages que j'ai vu de ma vie dans les séries, ça c'est clair, encore pire que BoJack Horseman, et même au cinéma, vraiment un personnage absolument détestable, mais qui est composé avec une maestria de jeu absolument fabuleuse par Matt Smith, un acteur britannique qu'on a vu, que moi j'ai vu dans The Crown notamment, mais qui a joué dans Doctor Who, qui a joué aussi dans House of the Dragons, le spin-off là, de Game of Thrones. Bref, c'est un acteur qui est phénoménal, qui arrive à rendre une histoire que j'allais croire banale au premier épisode, mais qui m'a complètement fasciné au fur et à mesure des 6 épisodes qu'il dure et qui dure entre 45 et 30 minutes. Et puis surtout, moi, la mention spéciale, elle est pour Raphaël Mathé qui joue le fils du coup, qui a 9 ans et qui est vraiment un des meilleurs acteurs enfants que j'ai vu récemment au cinéma ou dans les séries, mille fois meilleur par exemple que le gamin qui joue Hamnet sur lequel tout le monde s'extasie en ce moment dans le film de Chloé Zhao dont on parlait la semaine dernière. Bref, The Death of Many Monroe, c'est fabuleux, c'est très 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 déprimant, mais la musique est signé par Nick Cave lui-même, il le devait bien ça à la production. Et puis voilà, ça, on entend un anglais, pour le coup british, dans un contexte british, tu disais Aubry, et c'est hyper agréable. Voilà, et The Death of Benjamin.
Pardon.
J'ai dit sur Sky TV,
okay,
mais avec un VPN.
Ok, ouais.
Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver donc sur la page du comptoir sur transistor.fr. Alors même si on va se retrouver tout de suite dans la deuxième partie de l'émission, eh bien merci beaucoup à tous les quatre, Corentin, Clarisse, Justine et Aubry, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, sur transistor.fr et sur toutes les plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous. Puis si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas. Voilà. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.